France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Corinne Schneider.
Je suis Maren Alsop. Je suis chef d'orchestre. Je suis une maman et je suis heureuse.
Maren Alsop, voici les années 1990 qui s'ouvrent à vous, avec le début de votre carrière qui s'étendra de la côte est des États-Unis jusqu'à la côte ouest, puisque vous êtes à la tête de plusieurs orchestres désormais. Comment menez-vous votre vie ? Vous allez avoir une quarantaine d'années et vous êtes à travers les États-Unis, là.
Well, it was a dream come true, really, for me.
C'était un rêve qui se réalisait pour moi.
Really having only my concerts with Concordia.
Je suis passée de mes seuls concerts avec Concordia, 4 ou 5 dans l'année, à, oh, je sais pas, peut-être 30, 40 concerts par an. Ma carrière a vraiment décollé. C'était un équilibre idéal parce que j'étais directrice musicale à Eugene, dans l'Oregon, une population avec un excellent niveau d'éducation qui valorisait les arts, la culture, curieuse de tout. J'ai donc pu faire beaucoup de pédagogie, de sensibilisation. J'ai commencé à beaucoup parler de musique avec le public, de la musique nouvelle. On jouait des œuvres contemporaines. J'ai fait venir mes amis John Adams, Chris House et John Corleano pour un festival. J'ai vraiment commencé à construire quelque chose pour cet orchestre. Et mon expérience avec Concordia m'a permis d'aider cette formation. J'étais passée par là, je connaissais le marketing, les levées de fonds, l'administration, les activités de médiation, sensibilisation du public. Je l'avais fait pour mon propre orchestre, je pouvais vraiment les aider. Et en même temps, je dirigeais un autre orchestre sur la côte Est, le Long Island Philharmonic, au profil très différent, uniquement des musiciens freelance new-yorkais. C'était deux expériences complètement opposées. D'un côté, l'orchestre de la ville de Eugene, et de l'autre, une formation de professionnels indépendants. J'ai pu travailler dans ces deux univers à la construction de mon répertoire, le répertoire standard, et puis j'ai fait des créations, j'ai donné des œuvres pour la première fois avec les deux orchestres. Et je pouvais ouvrir sur la côte ouest et redonner le répertoire sur la côte est. C'était parfait.
Maren Alsop, pendant laquelle vous êtes invitée à la tête des plus grands orchestres américains. Les années 1990 marquent les premières fois avec le New York Philharmonic, par exemple. Quelles sont les remarques, les réactions que pouvaient avoir les musiciens avec une femme chef d'orchestre ? Car c'était sans doute la première fois qu'ils en voyaient une.
Well, I think with New York, they had some,
je crois qu'à New York, il y avait eu quelques femmes chefs d'orchestre dans les années 60, peut-être, ou 40. C'était formidable et terrifiant en même temps d'être la première femme à diriger. Puis je suis allée à l'orchestre de Philadelphie, au Philharmonique de Los Angeles. Et j'étais, sinon la toute première, certainement de mémoire récente, la première à diriger. C'était beaucoup de pression. Je devais être tout ce que tout le monde attendait de moi.
Et
c'était dur. Je commençais ma carrière, je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Mais heureusement, j'ai pu monter des programmes qui m'ont permis de montrer mon sens de la musique et de travailler avec les musiciens dans un esprit très collégial. Donc c'était bien. Mais c'était stressant. Beaucoup de pression.
Quels sont les répertoires que vous avez abordés avec ces grands orchestres ?
Avec l'orchestre de Philadelphie, j'ai monté un programme très original avec Takemitsu pour commencer, puis la troisième symphonie de Roy Harris, un compositeur américain, et enfin le concerto pour orchestre de Bartok, un répertoire très inhabituel. Ça m'a aidé à comprendre ce que doit être l'apport d'un chef invité. C'est très important d'amener une œuvre que vous portez et que vous faites découvrir, que les musiciens n'ont pas joué et rejoué au point de s'enlacer. J'ai compris la nécessité d'avoir un point de vue en matière de programmation.
Quels sont justement ces compositeurs qui vous ont porté à ce moment-là dans le répertoire ?
À ce moment-là, c'était en 1990-91, j'étais tombée complètement amoureuse de la musique de Christopher Rouse. Alors j'ai essayé de la faire connaître. John Adams, j'adorais son travail, c'est toujours le cas, comme avec Chris. John Corleano aussi a joué un grand rôle dans mon développement musical. Oui, je dirais que ces trois compositeurs sont ceux que j'ai le plus proposés aux orchestres, au moins en levée de rideau, en ouverture, sinon en pièce principale. Et j'avais des interactions profondes avec eux, parce qu'en plus, en 1992, j'ai pris la direction du Festival de musique contemporaine en Californie, le Cabrillo Festival, ce qui a ouvert pour moi un tout nouveau chapitre de collaboration avec les compositeurs et le développement d'un nouveau répertoire.
Est-ce que vous travaillez avec les compositeurs, Marina Alsop ? Vous travaillez à la partition avec eux, vous les voyez avant, ou il y a la volonté de leur offrir une découverte de leur propre œuvre ?
Ça dépend du compositeur. J'aime toujours parler avec les compositeurs s'ils sont vivants, pendant la préparation, quand je travaille la partition.
I don't try to micromanage
mais je n'essaie pas de contrôler leur processus créatif. Je suis toujours très respectueuse du compositeur. Évidemment, avec des gens comme Chris Rouse, John Adams, John Corleone et beaucoup d'autres, j'ai tellement travaillé leur musique que l'on n'a plus besoin de se parler parce que je connais leur langage.
I still feel that way. And just some a small thing to say is that Chris Rouse,
à propos de Chris Rouse,
coincidental, but he lived in
le hasard a fait qu'il vivait à Baltimore, il y avait grandi. Alors quand j'ai pris les rênes du Baltimore Symphony, je me suis retrouvée à 3 kilomètres d'une de mes idoles et je lui rendais visite à chaque fois que j'étais de passage pour parler musique, tout ça. Il nous a quittés récemment, j'étais auprès de lui quand il est décédé. Vous comprenez, pour moi, ce ne sont pas seulement des compositeurs, c'est ma famille.
Marina Alsop, on vous connaît si énergique, si déterminée au pupitre, c'est même votre signature. Mais dans quel état êtes-vous lorsque vous travaillez vos partitions? Est-ce que vous avez besoin d'être dans un état de calme ou un état justement de dynamisme physique tel que celui que vous transmettez aux musiciens avec votre charisme si réputé?
I think that I'm a very calm and quiet
je pense
person,
être
really.
Quelqu'un de très calme et discrète au fond.
To be introspective
et ma nature me pousse à l'introspection, l'introversion. Je n'aime rien tant qu'avoir une journée libre quand je peux travailler mes partitions. Je me lève très tôt, tous les jours, pour m'y consacrer 2 ou 3 heures. Parce que ça m'enracine. C'est comme la méditation, ça me met en jambe pour la journée.
I'm repeating a lot
aujourd'hui, bien sûr, je répète beaucoup d'œuvres que je connais déjà. Mais c'est important d'y revenir et de les considérer d'un œil neuf. C'est comme recharger ses batteries.
It's almost like recharging your batteries.
Toujours les années 1990, Marina Alsop est la direction musicale de l'Orchestre symphonique du Colorado. Vous succédez à Philippe Entremont et commence ici une nouvelle histoire jusqu'en 2005. Vous avez 37 ans. Comment abordez-vous le répertoire? Avec quel répertoire spécifiquement avec cet orchestre?
Well, most of my music directorships, especially
ma qualité de chef d'orchestre permanente, surtout aux États-Unis, j'ai privilégié le répertoire classique.
Tchaïkovski, Brahms, Beethoven. You're serving the entire community.
Parce qu'on doit s'adresser à tous les publics.
I always would try to give the orchestra where I was music
mais en tant que directrice musicale, j'ai toujours essayé de donner à l'orchestre un profil particulier, une signature qui le distingue de tous les autres orchestres américains. Le Colorado, pour moi, c'était l'idée d'être au milieu des montagnes et du ciel immense de l'Amérique. Alors j'ai orienté notre énergie sur la musique de Copland, la musique de Roy Harris, des compositeurs qui représentaient exactement cet aspect-là de l'imaginaire américain.
Thank you. Marina Alsop, comment est-ce que vous regardez aujourd'hui ces années 1990 qui étaient une décennie de folie? Vous êtes à travers les États-Unis, vous êtes par les routes, dans les avions. Ces 40 ans, comment les voyez-vous aujourd'hui? C'était une période extrêmement active.
Yeah, it was very busy, but I never really believed
oui,
I could live the life of a conductor.
Mais pour moi, qui n'avais jamais vraiment cru pouvoir mener la vie d'une chef d'orchestre, parce que tant de gens m'avaient découragé, non, tu peux pas faire ça, c'est pas un métier de femme. Donc pour moi, les contraintes des voyages et des nombreux déplacements ne m'ont pas vraiment pesé. J'étais toujours dans la joie de faire le métier auquel j'aspirais. Je me réveille encore dans cet état d'esprit, comme ce matin. Je me dis que j'ai de la chance de faire ce que j'aime chaque jour de ma vie. J'ai dit à mon fils quand il était petit, si tu peux trouver un travail que tu aimes, tu seras heureux. Mais bien sûr, ce style de vie, les voyages, j'ai aussi pris la direction musicale du Bournemouth Symphony en Angleterre. Donc, je faisais sans cesse des allers-retours entre le Colorado et l'Angleterre. Je crois que ça a été difficile pour ma famille quand mon fils était tout petit. Mais heureusement, ma compagne était constamment présente. Si je pouvais changer une chose, ce serait d'être davantage présente dans sa petite enfance. Aujourd'hui, je suis sans doute trop présente. Il aura 17 ans dans deux semaines. Il a hâte de se débarrasser de moi.
Marina Alsop, dans ces années 1990, comme toujours très originaux. J'aimerais que vous nous parliez justement d'un de vos projets extraordinaires, qui est celui de la revisitation du Messie de Handel. Nous sommes en 1993, oui. Et voici un projet tout à fait créatif, c'est-à-dire une version gospel.
Well, you know, see, this is a perfect example of...
C'est le parfait exemple de mon dédain pour les règles classiques. La musique doit pouvoir évoluer. Et ce doit être un plaisir. Alors, la genèse de ce projet, Too Hot to Handle, Handel comme le compositeur, j'avais invité un ami à venir écouter le Messie. Je jouais du violon dans l'orchestre. C'était Gary, mon ami Gary, qui m'a aidé avec String Fever. Et il me répond, oh non merci, j'aime bien le moment où vous vous levez tous, mais c'est tellement long jusqu'à cette partie-là. Alors je lui ai dit, chiche. On devrait revoir tout ça, essayer de le dépoussiérer un peu, le mettre au goût d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'avec Gary, un autre bon ami à moi, Bob Christensen, qui lui était compositeur de commandes, ils me trouvaient folle tous les deux. C'est toujours comme ça, les gens lèvent les yeux au ciel quand je leur fais part de mes idées, mais ça m'est égal, alors je leur ai dit, écoutez. Je crois que cette œuvre s'accommoderait bien d'un peu de jazz, de gospel, de R&B, et c'est ce qu'on va faire. Alors on a réparti les différents morceaux. Ma seule consigne était de conserver le texte intégral et la structure d'ensemble. Tout le reste pouvait changer. Ils se sont répartis le travail entre eux et je leur donnais des indications. Là, je veux un shuffle. Et l'Alléluia, évidemment, est devenu un formidable numéro de gospel. Ils ont fait du beau travail et ça fonctionne parfaitement. J'ai d'abord présenté ce spectacle à New York en 1994, je crois, ou 93. C'est resté complet pendant près de 10 ans. Et je l'ai donné dans le Colorado. Il se joue encore chaque année. C'est un spectacle que je devrais présenter ici en Europe parce qu'il nous parle de joie. Les gens sont debout et dansent, ils prennent du plaisir. Et je pense que Handel en serait enchanté. Après tout, Mozart aussi a rafraîchi le Messie, alors pourquoi pas? C'est un projet qui démocratise la musique. Et c'est cette envie que j'ai vue chez Bernstein, et ça fait aussi partie de ce que je suis. Je refuse que la musique soit figée dans une case. Vous savez, le genre « Oh, je ne fais que du Mahler et je le fais sérieusement ». C'est pas vrai. Je fais du gospel et je m'amuse. Mais je fais aussi du Mahler. Ce n'est pas parce qu'on s'amuse qu'on n'est pas un musicien sérieux. Et ces projets permettent d'amener de nouveaux publics dans les salles de concert. Et aussi, ce qui me tient à cœur, de faire monter sur scène des musiciens afro-américains et de monter des spectacles inclusifs. J'y travaille depuis 1994, un bon moment.
Bien qu'elle prend beaucoup de plaisir, Marine Alsop. On peut donc s'amuser grâce à la musique tout en le faisant le plus sérieusement du monde. C'était un extrait de Too Hot to Handle, le Messie en gospel, un projet initié au début des années 1990 par la chef d'orchestre américaine. Rendez-vous demain pour le quatrième volet de ces grands entretiens réalisés par Gilles Blanchard avec Michel Gassic à la prise de son, Cédric Châtelus au mixage et Eve Dair pour la traduction. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.